Salut à tous et à toutes, merci d'être là, bienvenue à cette édition de Point de vue. Bon, écoutez, on a une émission tout en culture cette semaine. Des étudiants de l'Université Laval partagent leur histoire, leur tristesse et leur parcours de vie pour ne rien oublier dans l'expo Carte postale de l'Ukraine.
Nous sommes forts, oui, j'ai d'espoir. Je pense que je vais revenir parce que je veux revenir.
Soutenir les artistes dans leurs projets de recherche et de création, la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse les invite à participer au week-end de création à Halifax.
Partager des idées, partager des méthodes, et puis juste donner une place à la création.
Culture, toujours, on revient sur l'événement Contact Ontarois, le grand marché des arts de la scène d'Ottawa.
On espère que les tournées vont se dynamiser, on espère qu'il y ait plus d'artistes qui circulent, que la pertinence de l'organisme perdure.
La seule librairie francophone de Toronto va fermer ses portes en février.
C'est une tristesse, de l'amertume, mais aussi une fierté. Parce que j'ai réussi quelque chose que j'avais aucune idée comment bâtir.
Et le Festival du Voyageur de Winnipeg reçoit en février près de 85 000 festivaliers avides de culture francophone et métisse au cœur de l'hiver.
Je pense toujours que le festival, c'est une belle opportunité pour réfléchir au passé et penser à le futur.
Ceci et plus encore à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Merci d'être avec nous. Boris Chassagne, ici au micro, je serai avec vous pour les 30 prochaines minutes, accompagné de nos correspondants nationaux de l'IGL. Notre premier arrêt-stop, ben, on le fait à Québec, la ville de Québec, pour vous parler de l'exposition Carte postale de l'Ukraine. Près de 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, des étudiants ukrainiens de l'Université Laval proposent à la communauté de la capitale provinciale de partir à la découverte d'un fragment de leur patrimoine et de partager leur parcours en tant que réfugiés au Québec, ceci en exposant des dizaines de photographies de monuments historiques ukrainiens avant et après qu'ils n'aient été bombardés, accrochés sur les murs de la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université. Les étudiants ont aussi écrit des poèmes et témoignent dans une vidéo de leur vie bouleversée depuis l'invasion russe. Ce n'est pas qu'un conflit, c'est la destruction de notre identité, de notre nation. Ce n'est pas un conflit local, c'est une question de notre existence, clame Renata Sadret-Dinova, une post-doctorante originaire de Kiev et qui a participé à la mise en place de l'exposition Carte postale de l'Ukraine en partenariat avec l'Institut ukrainien Alice Zanetta à Québec.
Comment se souvenir d'un pays et de sa culture détruits par les bombes ? Presque 3 ans après le début de l'offensive lancée par le dirigeant russe, Vladimir Poutine, contre l'Ukraine, des étudiants ukrainiens de l'Université Laval ont mis sur pied une exposition en partenariat avec l'Institut ukrainien pour célébrer une partie de leur patrimoine dont il reste aujourd'hui seulement des ruines. Renata Sadretsietinova est doctorante en neurosciences et originaire de Kiev.
Les gens doivent savoir que ce n'est pas juste un conflit, c'est la destruction de notre identité, de notre nation. Ce n'est pas juste comme... Il y a juste un conflit local. Non, ce n'est pas un conflit local, c'est juste une question de notre existence. Avec cette exposition, vous pouvez voir que tous les aspects de notre vie quotidienne étaient détruits.
Sur les murs de la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins, une dizaine de photos de monuments sont présentées avant et après un bombardement, comme sur une carte postale. On y découvre par exemple l'ancien hôtel continental de Mariupol, qui était, avant d'être détruit par la guerre, une maison de la jeunesse. Selon le ministère ukrainien de la Culture et des Communications, à la fin de 2024, c'est environ 1255 sites historiques qui ont été endommagés en Ukraine par les forces russes.
Les endroits qui étaient détruits, c'était l'endroit pour, par exemple, pour notre génération future, à se souvenir le passé, et, pour souvenir notre identité.
Depuis février 2022, donc environ 3 ans, ce sont aussi des vies qui ont été détruites. On compte presque 7 millions de réfugiés ukrainiens à travers le monde et plus de 12 300 civils qui ont été tués par la guerre, selon les derniers chiffres de l'ONU. Le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis sème l'inquiétude parmi certains Ukrainiens comme Renata. Pour rappel, le président américain a promis de mettre un terme rapidement à la guerre, sans préciser les méthodes qu'il emploiera. Il a aussi évoqué une aide militaire qui pourrait diminuer de la part des États-Unis. Renata pense que cette exposition, dans cette période d'incertitude, permet de faire valoir l'identité des Ukrainiens.
Je pense peu de menaces pour nous maintenant avec contexte politique parce qu'il y a beaucoup de nationalisme à l'Europe, aussi aux États-Unis. Trump ne comprend pas qu'est-ce qui vraiment est passé à l'Ukraine. On ne peut pas juste donner à Poutine qu'est-ce qu'il veut parce que c'est pas toujours assez pour les dictateurs. Il veut plus.
En plus des photos de monuments fournis par l'Institut ukrainien et qui ont voyagé à travers plusieurs expositions dans le monde, les étudiants présentent aussi une vidéo où de jeunes Ukrainiens relatent leur arrivée au Québec en tant que réfugiés, ainsi que des poèmes pour témoigner de leur vie bouleversée par la guerre.
C'est une image de deux personnes réfugiées. On peut voir quelques layers ici. Cette chose-là, c'est comme il y a une layer qui représente la guerre, il y a une layer qui représente une personne. Okay. C'est comme je suis une personne, mais la guerre a mis un layer à moi, et c'est comme une forme quand je rencontre l'autre gens, je dis « Oh oui, je suis ukrainienne », c'est pas moi, c'est juste une layer que je dois porter.
C'est lourd à porter.
Ouais, c'est pas facile, mais moi je suis chanceuse, j'étais ici. Quand c'était débuté. Ouais.
Renata Sadretietinova est arrivée au Québec 2 ans avant le début de la guerre pour commencer son doctorat à l'Université Laval. Elle a encore de la famille à Kiev et garde confiance qu'elle pourra y retourner un jour pour contribuer à l'histoire de son pays.
Il y a beaucoup de gens en Ukraine qui veulent combattre, mais c'est vraiment difficile. Beaucoup de gens sont morts maintenant. Mais nous sommes forts. Oui, j'ai d'espoir. Je pense que je vais revenir parce que je veux revenir.
Alice Zanetta pour IGL à Québec.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
Près de 85 000 personnes, dont 10 000 étudiants et élèves, sont attendus à l'édition 2025 du prochain Festival du Voyageur. Le Festival du Voyageur, c'est un peu quoi? Le joyau de la culture francophone et métisse au Manitoba. Le Festival du Voyageur qui réunit chaque année des milliers de festivaliers avides de musique, d'histoire et d'activités hivernales. Cupidon sera aussi sur place pour la Saint-Valentin car l'événement se tient du 14 au 23 février. Et le festival accueille pour la toute première fois cette année des artistes comme Fred's, Men in Kilts, écrit d'autres talents, notamment Chic Ibra Femme, Jill Barber et la famille Campagne, mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce nom-là, enrichiront la programmation de l'événement. Brianne Lavallée-Eckert, directrice générale du festival, partage sa vision de l'événement et les nouveautés qui marqueront cette édition de ce festival au micro de Gaëlle Mpoyou à Winnipeg, au Manitoba.
Donc cette année, on a pour la première fois le Shed Aléo, donc c'est un petit shed qui s'appartient à Léo, notre mascotte, puis on a plein de trésors des festivals d'antan, donc tous les macarons depuis le début du festival, les archives, plein de choses, les photos dès le début du festival sera là dans le shed à Léo pour les festivaliers à découvrir c'est quoi le passé du festival, puis aussi ça va vraiment donner la chance du d'y penser au futur du festival. Pour vraiment, je pense toujours que le festival, c'est une belle opportunité pour réfléchir au passé et penser à le futur. Donc, le Chalet à Léo, ça va donner l'occasion aux festivaliers de faire ça avec nous aussi. Puis, on a un salon à l'extérieur qui sera complètement nouveau cette année. Donc, oui, les festivaliers peuvent s'entendre à avoir une nouvelle place pour avoir une bière, une festibrou ou partager une chocolat chaud avec ta famille. Donc, ça va être très excitant pour les festivaliers de découvrir ces nouveaux endroits dans la parc.
Alors, parlez-nous aussi des artistes qui se produiront pour la première fois au festival, comme par exemple Fred's Man in Kids, c'est ça?
Oui, yes.
Et Cree, que peuvent attendre leurs fans?
Oui, yes. So Cree, c'est un artiste qui est à Oshiega cette année. Donc, c'est un nouvel artiste pour le festival. Donc, nous sommes très hâte pour voir son spectacle. Puis, Fred, c'est aussi un grand artiste parmi les jeunes. La soirée du CGP, le jeudi 20 février, Fred sera sur la scène. Puis, nous sommes très hâte pour ça. On a plein d'autres choses absolument dans le parc du Voyageur, mais aussi ici au-delà du Voyageur. À CCFM, on a plein de programmations aussi.
Alors, vous avez mentionné l'importance de la programmation musicale. Qu'est-ce qui rend cette édition particulièrement spéciale du point de vue musical, Brienne? Mm-hmm.
Oui, donc on a vraiment une gamme d'artistes qui sont très enracinés dans la communauté, mais qui ont aussi des nouvelles expressions de la culture. Donc, ici, au CCFM, à l'heure du Voyageur, on a la Terre Femme, Winnipeg, donc la famille Campagne, présentée comme la Terre Femme à Winnipeg pour la première fois. Donc, on a ces éléments culturels qui vraiment font partie du cœur du festival, puis la programmation musicale.
Alors, on va poursuivre notre entrevue. Le rôle des bénévoles semble être très important pour le festival.
Oui, absolument. Près de 1000 bénévoles chaque année qui font partie du famille du festival pour monter cette fête communautaire. Donc, on est à la recherche encore pour des bénévoles. On a fait du progrès, bien sûr, sur tous nos corps de travail, mais il reste encore des places. Mais si tu veux regarder la programmation, voir quel soir tu veux être dans la parc et quel soir tu peux faire du bénévole, c'est maintenant le temps parfait. Donc, si tu veux faire du bénévole puis faire partie de cette expérience du festival, toujours regarder sur notre site web ou nous contacter pour plus de renseignements.
Alors, vous avez mentionné la nouveauté du laissez-passer de fin des semaines. Alors, comment cela fonctionne? Pourquoi avez-vous décidé d'introduire cette option cette année?
Oui, donc on a beaucoup de demandes pour les passes du Voyageur qui donnent accès au parc pendant toute la semaine du festival. Donc c'était vraiment pour donner l'occasion aux festivaliers d'acheter un nouveau passe qui peut mieux accommoder à leur horaire. Donc il y a plusieurs personnes qui peuvent seulement participer à une fin de semaine, soit ils partent en vacances ou quoi que ce soit. Donc c'est de donner cette opportunité-là pour avoir les mêmes bénéfices que le passe du Voyageur pour une fin de semaine seulement.
Et l'utilisation des QR codes pour guider les visiteurs à travers le Fort Gibraltar. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette innovation aussi?
Oui, nous sommes très heureux pour ça aussi. C'est une complètement nouvelle façon pour interagir avec le Fort puis les interprètes. Donc, on a des nouveaux tournées que tu peux accéder via une QR code sur le site. Donc, on a plusieurs tournées à choisir. Ça, on a un objet caché. Ça, c'est plutôt pour les petits, trouver peut-être un canot ou d'autres objets, une ceinture peut-être. Puis on a aussi un qui es-tu. Donc, c'est de parler à des interprètes puis découvrir c'est quoi tous les emplois. En 1815, le Fort était vraiment une place de travail. Puis ça donne l'opportunité pour vraiment approfondir l'expérience pour comprendre c'était quoi les dynamiques à ce temps-là. Puis on a aussi une tournée qui est mon préféré, c'était la tournée auto-guidée pour d'espionnage. So, l'idée, c'est que tu es une espionne de la compagnie du Baie du Temps, puis tu rentres au fort de la compagnie du Nord-Ouest, puis tu es en train d'essayer de trouver des secrets du fort.
Alors, cette année, vous vous attendiez à combien de festivaliers, Brienne?
75 000 encore. Nous sommes prêts pour tout. Puis aussi, ça inclut aussi tous les élèves qui participent à notre programme scolaire. So, c'est à peu près 10 000 élèves qui rentrent dans le parc du Voyageur pour apprendre, pour avoir cette expérience culturelle comme partie de leur programme éducationnel.
Les préparatifs battent leur plein avec l'installation de blocs de glace emblématiques. Nous avons tout préparé pour que cet événement soit inoubliable, a-t-elle conclu. Winnipeg, Gaëlle Poyou pour EJL.
On vous parlait de la présence annoncée du musicien Cree à ce festival. C'est d'ailleurs avec lui, avec sa musique en tout cas, qu'on ouvre chaque semaine et depuis 3 ans, l'émission Point de vue.
Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
La seule librairie francophone de Toronto, la Children's French Book Corner, qui avait pignon sur rue à l'avenue Danforth à Toronto, fermera ses portes le 28 février prochain. Fondée en 2017 par Lydia Grimard-Watt, la French Book Corner est pour quelques semaines encore la seule librairie à Toronto à vendre des livres uniquement en français. Des ventes en baisse, la concurrence du commerce en ligne, les coûts de location croissants et la congestion dans la ville Rennes, force la propriétaire à mettre la clé sous la porte. Au-delà de l'amertume et de la tristesse, Lydia Grimard-Watt confie avoir tout de même le sentiment du devoir accompli et elle sait que cette fermeture va laisser un vide chez les francophones et francophiles. Annette Minka, à Toronto, en Ontario.
Ça va leur manquer parce que c'était la... Je suis encore là aujourd'hui, la seule librairie à Toronto, fait que c'était un endroit pour eux de venir magasiner pour leurs enfants, mais aussi c'est les familles d'immersion, parce qu'ils me disaient que vu qu'ils parlent pas français, les parents comme les grands-parents, on va dire, c'était une manière pour eux de supporter leurs petits-enfants à apprendre le français. Puis ça, c'est ça qui va aussi, ça va leur manquer.
À votre avis, quel va être l'impact en fait de la fermeture de cette librairie sur la communauté francophone et francophile à Toronto?
Pour les francophones, ils peuvent toujours acheter en ligne parce qu'ils ont, les adultes comprennent, tu sais, parlent français, fait que c'est plus facile pour eux de le faire. Aussi, ils le font leurs achats lorsqu'ils retournent soit au Québec ou en France. En toute honnêteté, il y en a beaucoup qui m'ont même partagé ça. Ça, probablement, ça va continuer pour eux. J'espère qu'il y en a qui vont prendre la peine peut-être d'aller supporter l'autre librairie qui reste dans la section sud-est de l'Ontario, il était une fois à Oakville. Sinon, moi, ça va tout simplement acheter en ligne parce qu'il n'y aura pas rien de physique à Toronto.
Quels sont vos conseils pour qu'ils continuent à acheter et à consulter des livres francophones à Toronto?
D'aller regarder dans la librairie publique, Toronto Public Library. Ils développent un petit peu plus leur inventaire pour des livres en français. Alors, c'est une question de regarder non seulement la librairie qui est proche de chez eux, mais d'aller dans d'autres librairies. Parce que, je devrais plutôt dire, excusez, bibliothèque, parce que des fois, entre l'anglais et le français, on mélange les deux mots, là. Les bibliothèques publiques, ils ont des livres en français, une petite inventaire dans chaque librairie publique, bibliothèque publique. Les bibliothèques dans les écoles de leurs enfants, d'encourager les enfants à emprunter des livres en français au lieu de juste des livres en anglais, puis de s'asseoir avec eux à la maison, puis les aider à lire en français.
Quel moment marquant ou souvenir précieux gardez-vous de votre temps ici en tant que propriétaire de la librairie?
Les commentaires, ce qu'on appelle les feedbacks que j'ai eu des parents, puis des grands-parents, même hier, qui me disaient, parce que je n'étais pas ici juste pour vendre des livres, je conseillais beaucoup les parents, les grands-parents, parce qu'ils avaient besoin d'aide à trouver le bon livre pour leurs enfants, le bon niveau de lecture. Puis les commentaires que j'ai eu d'eux après, c'est incroyable. Quand les gens rentraient, puis ils disaient, « Oh, c'est tellement charmant, j'adore votre petite librairie du coin. » C'est pour ça que je l'ai appelée Children French Book Corner, parce que c'était une petite librairie. Ça m'a touché beaucoup au cœur. Tous les commentaires que j'ai eus, les relations que j'ai eues avec certaines familles, les histoires qu'on partageait avec moi.
Pour revenir un peu à la genèse, qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir cette librairie à Toronto?
Après que j'ai eu mes propres enfants, je trouvais que c'était difficile d'acheter des livres en français puis faire de la lecture à la maison. Et lorsque mon style de vie a changé quelques années plus tard, c'est ça qui m'a donné l'idée de commencer un petit peu ce petit rêve-là, puis la passion que j'ai pour que les enfants lisent. Puis c'est ça que j'ai commencé avec juste une petite étagère dans le coin d'une autre entreprise, et j'ai grandi ce que j'ai présentement. J'ai vu la différence que ça le fait. J'ai même eu une grand-mère, à vrai dire, qui a vitement rentré dans la librairie aujourd'hui pour me dire, je veux juste partager avec toi les livres que j'ai achetés hier, je les ai montrés à mes petits-enfants, puis ils les adorent, ils les lisent. Je sais que j'ai fait la différence que je voulais faire, mais je vais continuer cette différence-là que je vais faire d'une autre manière, c'est qu'en supportant les écoles, puis les conseillers, puis vendre des livres en français, je vais pouvoir aussi aider les enfants, mais pas aussi directement. Ça, le côté direct va me manquer, mais au moins, je vais quand même avoir le sentiment de faire une différence. J'espère de pouvoir continuer à travailler avec les écoles, mm-hmm. puis continuer à développer ces relations-là avec les écoles, et j'espère aussi les bibliothèques publiques. Déjà avec les écoles, ils me contactent plus par comme courriel parce que soit qu'ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, des fois ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, fait que je leur fais des suggestions. Puis on va communiquer plus électroniquement.
Y a-t-il un message que vous aimeriez transmettre à vos clients? fidèles et à la communauté francophone de Toronto.
Pour les familles qui sont venues des multiples de fois me supporter au fil des années, j'apprécie énormément. Les beaux mots qu'ils ont partagés aussi au fil des années, de voir le sourire des enfants aussi, ça, je leur remercie énormément. Ça m'a aidé à créer mon rêve puis à supporter la passion pendant toutes ces années. Fait que je suis très fière puis je leur dois beaucoup.
Quel est votre sentiment là, actuel par rapport à tout ça?
Triste, mais en même temps, il y a de l'amertume aussi là, c'est une tristesse, de l'amertume, mais aussi une fierté. Parce que j'ai réussi quelque chose que j'avais aucune idée comment bâtir. Puis j'ai réussi à survivre en travers COVID, ce qui n'était pas facile, déménager en milieu d'un COVID, et que je sais que j'ai fait une différence.
Annette Minka à Toronto rencontrait Lydia Grimard-Watt de la librairie French Corner qui ferme ses portes fin février 2025.
Tous nos journalistes vous attendent sur fréquenceinfo.ca.
Et on reste en Ontario pour se rendre à Ottawa, où la 44e édition de Contact Ontarois, organisée par Réseau Ontario, s'est conclue le 18 janvier dernier avec une soirée spéciale qui a rassemblé des artistes, des diffuseurs et des membres de la communauté. Ben, Contact Ontarois, c'est quoi? Ben, c'est un grand marché du spectacle. C'est The Rendez-vous, le rendez-vous des arts de la scène. Cette année, et durant trois jours, près de 1400 personnes ont assisté à une gamme variée de vitrines, d'ateliers, de conférences et de rencontres professionnelles dédiées aux arts, à l'industrie culturelle ontarienne et canadienne. L'événement a été couronné par une remise de prix où l'auteur, compositrice, interprète de musique roots contemporaine originaire du nord de l'Ontario, Mimi Obobsawin, a été honorée du prix Distinction pour l'excellence et la qualité artistique de sa performance en vitrine. Marie-Ève Chassé, directrice générale de Réseau Ontario, est au micro de notre journaliste Gabrielle Poulin à Ottawa.
C'est samedi soir que s'est clôturée la 44e édition de Contact Ontarois, le marché du spectacle de l'Ontario français organisé par Réseau Ontario. Présenté du 15 au 18 janvier, Contact Ontarois a permis de rassembler artistes, diffuseurs et communautés, en plus d'outiller les membres de Réseau Ontario pour la prochaine saison artistique. Marie-Ève Chassé, directrice générale de Réseau Ontario, revient sur l'événement et sur le futur de l'industrie dans la province.
On espère que les tournées vont se dynamiser. On espère qu'il y ait plus d'artistes qui circulent, que la pertinence de l'organisme perdure finalement, mais tout en s'adaptant, je pense, aux nouvelles réalités. Je pense qu'on veut pas faire du surplace, on veut évoluer comme organisme selon les enjeux sociétaux, qu'on parle d'environnement, qu'on parle justement d'équité, de diversité. Donc, on espère suivre finalement la cadence, puis montrer le chemin, puis aider nos diffuseurs à s'adapter également. Là.
Cette 44e édition a attiré près de 1400 participants qui ont eu l'occasion d'assister à 5 blocs de vitrines artistiques diversifiées, incluant les vitrines grand public, les vitrines jeunesse secondaire et élémentaire, les présentations éclairs et la bulle théâtre-danse pour y découvrir une quarantaine d'artistes de partout au pays. D'autres activités fortes, comme des ateliers, des conférences et des rencontres professionnelles, ont également contribué à renforcer les liens au sein de l'industrie. L'événement s'est terminé avec une remise de prix qui a permis de souligner le travail de plusieurs artistes, dont Mimi Obobsawin et Effet Papillon, qui se partagent le prix Distinction pour l'excellence et la qualité artistique de leurs vitrines respectives lors de Contact Ontarois. Mimi Obobsawin présentait sa toute première vitrine grand public cette année. Elle fait un retour sur la soirée de son spectacle.
Quand tu portes tes racines puis ton identité d'une façon authentique, tu vas comme faire des points avec des gens partout au monde. Donc, oui. Je me sens chanceuse de faire ça. Mais quand ça vient à faire des vitrines puis des spectacles, on met toujours comme un autre chapeau. Je pense que je suis chanceuse parce que je joue avec mon mari. So, dans n'importe quel contexte, je sais que j'ai mon bubble, j'ai mon univers avec moi. Si je peux inviter les gens, parfait, parce que c'est ça que je veux offrir comme artiste. Je veux que les gens viennent voir notre univers puis se trouver là-dedans. Mais je pense que c'est grâce à avoir comme le husband-wife duo. C'est comme, OK, je suis comme dans mon monde puis t'es bienvenue si tu veux venir nous joindre.
Réseau Ontario célébrait également ses 25 ans d'incorporation avec un spectacle spécial empreint de nostalgie franco-ontarienne. Maintenant que l'événement est terminé, c'est le temps pour les diffuseurs de l'Ontario de faire leur choix artistique pour bâtir la programmation de la saison 2025-2026. Gabrielle Poulin, IGL, Ottawa.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Et la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse, la FECAN, invite les artistes à une fin de semaine de réseautage et de créativité à Halifax. Daniel Leblanc, coordonnateur, précise que ces résidences vont permettre aux artistes qui y participent de développer leurs pratiques artistiques et leurs compétences. Des personnes ressources seront sur place et à leur disposition pour les conseiller et les accompagner dans leurs projets de création et de production. Daniel Aucoin à Chétiquan, Nouvelle-Écosse, en discute avec Daniel Leblanc.
Daniel Leblanc à la Baie-Sainte-Marie, bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien. Peux-tu d'abord nous expliquer en gros, c'est quoi les objectifs d'une résidence artistique?
Bien, ce que nous autres, on aimerait de faire, on va faire, c'est de créer un lieu pour des créateurs, soit que c'est les arts de la scène, ou les arts visuels, ou quoi que ce soit. C'est de créer un espace pour les amener pour un week-end, qui serions là trois jours, le vendredi, samedi, dimanche, puis juste être parmi d'autres créateurs, de partager des idées, partager des méthodes, et puis juste donner une place à la création.
Alors, la résidence artistique, à la fin mars, ça s'adresse à qui en général?
C'est vraiment tous les artistes de la Nouvelle-Écosse. Puis comme je dis, il y a comme deux volets, il va y avoir deux différents lieux. Fait qu'on a loué deux places déjà qui juste entre Halifax. Fait qu'on va s'adresser plus à l'art de la scène. Ça veut dire musique, comédie, quoi que ce soit qu'on est sur la scène. Et puis l'autre, c'est plus les arts visuels et autres. Ça fait que c'est juste une place pour donner aux gens, comme je dis, à créer avec d'autres mondes.
Est-ce qu'on a déjà une petite idée à quoi ça va ressembler, le programme de la résidence artistique? J'imagine qu'il y aura des personnes ressources.
Oui, ça fait que ce qu'on attend maintenant, c'est juste pour voir qui sont inscrits. Ça fait qu'on a déjà plusieurs participants qui sont là. Et puis, nous autres, on va choisir des gens, soit que c'est des mentors ou juste des gens qui vont être là avec eux pour faciliter la création et puis juste les aider à développer de quoi pour le week-end.
J'imagine que dans le passé, ces résidences artistiques, ça a permis à bien des artistes d'évoluer, d'apprendre de nouvelles techniques?
C'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont prendre. C'est sûr qu'aussi les liens qu'ils vont faire avec d'autres artistes, c'est bon quand on est dans une communauté qu'on peut commencer à se connaître. Et puis ça aussi, c'est habituellement, c'est des amitiés qui durent longtemps à place des résidences ici. Ça fait que c'est toujours une bonne affaire de créer cette ambiance-là de communauté.
Alors, Daniel Leblanc, qui coordonne comme ça la résidence artistique, c'est du 21 au 23 mars à la région d'Halifax pour les artistes et créateurs francophones. Bonne chance. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous en parler.
Merci beaucoup.
La Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse souhaite que plusieurs artistes acadiens et francophones de cette province profiteront de la résidence artistique pour travailler sur un projet ou développer de nouvelles idées. La FECAN veut soutenir et stimuler les créateurs en mettant à leur disposition un environnement et des moyens appropriés à la réalisation et à la diffusion de leurs œuvres. Ici Daniel Aucoin pour IJL à Chétiquan.
Ben voilà, c'est tout pour nous. Merci à nos journalistes IJL, Alice Zanetta, Annette Minka, Daniel Aucoin, Gabriel Poulain et Gaël Npoyo. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa et de l'Initiative de journalisme local. Merci à Julia Chénu, notre rédactrice nationale. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci à votre radio locale et à vous d'être là. Écrivez si ça vous tente. radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!